Nous allons parler du fait que nous devrions être prêts à mourir pour notre foi. Si tu crois en Dieu, tu dois être prêt à mourir pour cela. Mieux encore, il faut s'y préparer parce que Dieu va chercher toujours la meilleure offrande possible à tirer de nos vies. Et la meilleure offrande, ça, c'est la mort. Pas forcément la mort physique directement, mais la mort de l'homme dans son honneur, dans sa force. Pour que Dieu s'exprime pleinement, l'homme doit mourir. Et Dieu veut s'exprimer pleinement dans la créature la plus proche d'elle, de lui, qui l'a faite, c'est l'homme. Nous lisons premièrement Jean 12, 23 à 24, qui nous montre ce principe-là de la gloire que Dieu veut tirer de la mort.
Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, versets 23 à 24. Jésus leur répondit : L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis : si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Voilà. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il va rester seul, sans production. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Et en quelque sorte, ce grain de blé peut devenir éternel, parce qu'en produisant d'autres grains, ces grains-là vont en produire d'autres, et donc le premier grain de blé continue toujours à vivre éternellement. Nous sommes dans une époque où la foi est considérée comme un moyen de réussir des choses sur la terre, d'être protégé, d'être en bonne santé et, en dernier lieu, un ticket pour le ciel. Mais ce n'est pas ça la volonté pleine de Dieu. Dieu, par la foi, veut produire, manifester sa gloire dans l'humanité à travers l'homme qui a foi en lui. La foi avec Dieu, c'est une relation, c'est une fusion avec Dieu. Ce n'est pas juste un ticket pour aller au ciel, mais c'est une fusion avec lui. C'est le retrouvaille avec son Créateur, avec son Père, et on fusionne pour briller ensemble. Ce n'est pas de la blague. C'est une réalité profonde. Et le Seigneur compare ça au grain de blé. Il dit qu'il faut que le grain de blé meure pour produire beaucoup de fruits. Pour qu'il soit glorieux, il faut qu'il meure. Et c'est ça la volonté de Dieu. Il le dit dans Jean 15. La volonté du Père, c'est que chacun de vous porte beaucoup de fruits. La volonté de Dieu, c'est que, à travers l'homme, sa gloire se manifeste et que les gens viennent à lui. Et aujourd'hui, nous voulons insister sur le fait que dans notre marche avec Dieu, nous serons amenés à mourir afin que sa gloire se manifeste clairement. Mourir. Peut-être pas d'emblée physiquement, mais mourir vraiment en tant que soi-même. Mourir dans ses raisonnements, mourir dans ses calculs, mourir selon les bagages humains, mourir selon la force humaine, afin que la gloire de Dieu se manifeste pleinement. Je vais donner un premier exemple. Quand quelqu'un a de l'argent et que le matin il se lève, c'est un chrétien, il dit « Seigneur, donne-moi la nourriture. » Ensuite, à 11 heures, il va au restaurant, il utilise son argent pour manger. Est-ce que quand on parlera de la puissance de Dieu, pour ceux qui vraiment connaissent Dieu, ils y verront la puissance de Dieu. Mais pour beaucoup de personnes, ils diront, mais non, mais il a sorti l'argent de sa poche. Il a acheté la nourriture, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Où est la puissance de Dieu dans l'affaire? Pour ceux qui connaissent Dieu, ils savent que si Dieu n'avait pas donné le souffle, la respiration, cet homme, malgré ses sous, il ne serait pas capable d'aller manger au restaurant. Pour ceux qui connaissent Dieu, ils savent qu'un accident pouvait arriver en chemin dans la voiture. Pour ceux qui connaissent Dieu, ils savent que c'est quand même Dieu qui l'a amené jusqu'au restaurant et c'est Dieu peut-être qui lui a, c'est Dieu qui lui a donné les mains pour travailler et avoir cet argent-là. Donc en quelque sorte, c'est Dieu qui lui donne la nourriture. Mais est-ce que la puissance de Dieu est manifeste clairement? Non. Mais quand quelqu'un qui n'a rien du tout se lève à 8 heures avec rien du tout, il dit « Seigneur, je veux un festin aujourd'hui comme repas. » Et qu'à midi, on frappe à sa porte, on lui amène les plats venus d'un traiteur, un festin. Qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu est démontrée clairement. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 12. Dieu dit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et dans la version anglaise, c'est écrit, ma puissance est rendue parfaite dans la faiblesse. C'est quand il y a la faiblesse que ma puissance est clairement montrée. Mais quand il n'y a pas la faiblesse, on va confondre ma puissance à l'action humaine. C'est pourquoi Dieu qui veut montrer sa gloire va faire en sorte que l'homme soit faible. Et la plus grande faiblesse, c'est la mort. Et c'est ça qui va faire éclater la puissance de Dieu. Jean Schwab, un frère qui est déjà mort, un Suisse, il était un vrai chrétien. Il a fait un accident de train. Il était dans un train, le train a fait un accident et il s'est retrouvé alité à l'hôpital. Pendant 3 ans, pas de guérison, alité, bloqué. Et après 3 ans, un jour, le médecin dit aux autres médecins et aux infirmières qui l'entouraient, il dit, cet homme, le médecin principal dit, il ne passera pas la nuit. Alors, pour éviter que vous m'appeliez à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, pour venir signer son acte de décès, je le signe à l'avance. Comme ça, quand il meurt, vous complétez seulement. Le médecin a signé l'acte de décès de Jean Schwab à l'avance. Mais c'est qu'il ne savait pas que c'était un fils de Dieu, cet homme-là. Et qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que Dieu n'a pas dit mort, ce n'est pas l'homme qui va déclarer mort. Et à 3 heures du matin, pendant la nuit, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de la mort, celui qui a vaincu la mort, Jésus-Christ de Nazareth, est entré dans cette chambre. La lumière a brillé. Il a dit à Jean Schwab, lève-toi. Il a dit, mais je suis bloqué. Il a dit, c'est moi qui dis, tu te lèves. Jean Schwab s'est levé. Il était guéri totalement. Il sort dans les couloirs. Les gens crient, mais qu'est-ce qui se passe? Les infirmières viennent. Tout le monde crie. Et l'acte de décès est déchiré au nom de Jésus-Christ. Mais s'il était entré à l'hôpital et que, à la suite d'une opération, il en était sorti, les gens allaient dire, c'est les médecins qui ont travaillé. Dieu a laissé faire qu'il soit en état irrécupérable, à tel point que le médecin signe l'acte de décès à l'avance. C'est ainsi que par la mort, Dieu va glorifier son nom. Dieu nous amènera tous à la mort, d'une manière ou d'une autre. La question c'est, est-ce que tu es prêt ou pas? Est-ce que tu veux être vrai chrétien ou pas? Si tu veux être vrai chrétien, ça sera au prix de ta vie. Ça, ce n'est pas une association où on a une carte de club et on vient le dimanche avec sa carte, on entre, on a des avantages. Non, la vie chrétienne, c'est une question de vie ou de mort. C'est ça, bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Deuxième illustration. Si une personne venait nous dire « J'ai trouvé de bons placements. Vous placez un montant aujourd'hui, à la fin du mois, vous avez le double. » Ou bien, restons avec le double. Tu places un montant aujourd'hui, à la fin du mois, on te donne le double. Et toi, tu as un salaire de 1500 euros. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es prudent, et prudent, ça veut dire que tu ne fais pas totalement confiance à la personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends 100 euros, tu lui donnes. Et c'est vrai, à la fin du mois, tu as 200. Mais entre-temps, comment tu as vécu? Tu as vécu avec les 1400 autres, et les 200 viennent comme cerise sur le gâteau, hein, comme du sucre glace sur le gâteau. Et chaque mois, tu vas toujours par prudence donner 100. Et tu gardes les 1400 par sécurité en disant, mais j'ai des enfants quand même, j'ai une famille, je ne veux pas prendre le risque de tout donner. Ça veut dire quoi? Ta confiance en la personne n'est pas totale. Et qu'est-ce qui va se passer? Toute ta vie, tu auras une vie moyenne. Ça ne sera pas une vie glorieuse. La vie glorieuse, c'est la vie qui étonne, la vie qui brille, de sorte que les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais avec ta vie où tu donnes 100 au début du mois et à la fin, tu n'as que 200. En quoi ça va être extraordinaire? Maintenant, imaginons qu'on ait vraiment confiance à cette personne, qu'il dit vrai. Un homme intelligent va faire quoi? Il va prendre tout son salaire, il donne 1500. Et à la fin, il a combien? 3000. Il va même préférer se sacrifier encore un tout petit peu et donner les 3000 et chercher encore peut-être à vivre modestement et donner encore 2500, 500, et ça devient 5000. Et dans 2 ans, cet homme va briller d'une gloire extraordinaire. Les gens vont dire, mais comment ça se fait? Parce que j'ai tout donné. Mais un homme encore plus fou, il va faire quoi? Il va carrément vendre sa maison. Puisque ça double, je vends ma maison à 200 000. À la fin du mois, j'ai combien? 400 000. Et au bout d'une année, j'ai combien de maisons? Peut-être 4 maisons. C'est ça la gloire. Alors, vous comprenez combien de fois nous avons raté la gloire de Dieu parce que nous sommes des calculateurs. Parce que quel est le plus grand placement qu'un homme puisse faire? Est-ce l'argent? Est-ce sa maison? Non, c'est la vie. La vie d'un homme est plus importante que n'importe quelle richesse. Ce qu'est l'homme est plus que tout. Si on est sûr de notre foi, parce que le titre c'est mourir pour sa foi. Si on est sûr qu'on prie le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui a ressuscité son fils Jésus, et qui nous dit qu'il est vainqueur de la mort, qui nous dit que tout ce que nous perdons aujourd'hui, nous allons récupérer ça au centuple. Si on a confiance en ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on fait? on sème le maximum. On fait le placement maximal parce que c'est ça qui va être multiplié à l'infini. Notre vie témoigne de quelle dimension, dans quelle dimension nous sommes dans la foi en Dieu. Ou bien notre foi, c'est en qui réellement? C'est cela, bien-aimé. Et Dieu qui veut obtenir le maximum de nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des événements qui nous donnera la mort, qui nous donneront la mort. Pas forcément la mort physique, mais il y aura une certaine mort. Quand Jean Schwab est alité comme ça pendant 3 ans à l'hôpital, c'est la mort. Vous savez, après, il y a ce qu'on appelle les escars, hein? Des plaques qui se forment sur ton corps. On doit te laver. C'est la mort. Quelle humiliation. C'est la mort. Mais plus la mort est grande, plus la gloire est grande. Puisque c'est cette semence-là qui est utilisée pour être multipliée. Ce n'est pas autre chose. Comme on a donné l'exemple, quand tu donnes 1 euro, c'est l'euro que tu as donné qui est multiplié à la fin du mois, tu en as 2. Quand tu donnes 200 000, c'est 200 000 qui est multiplié, tu as 400 000. Il n'y a pas autre chose qui est multiplié, c'est ce que tu as donné. Et quand Dieu a pris la vie alors, la vie est infinie. La vie est hyper puissante. Et donc quand Dieu doit multiplier ta vie, ça fait quoi? Ça fait l'explosion. Ça fait la gloire. Dieu ne nous a pas sauvés par les miracles de Jésus. Il ne nous a pas sauvés par les miracles de Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles, au point que ça ne peut même pas remplir les livres. Les livres sont trop petits. Mais Dieu nous a sauvés par la semence de Jésus. Quand Jésus a été crucifié, c'est comme ça qu'on a été sauvés. Ce n'est pas les miracles de Jésus. C'est quand il a été crucifié, c'est quand il est mort. La Bible dit que les tombeaux se sont ouverts quand Jésus-Christ a été crucifié. Les tombeaux des saints d'autrefois se sont ouverts. La puissance de Dieu de la résurrection s'est manifestée par la crucifixion de Jésus. Donc c'est par la mort que Dieu manifestera sa gloire. Comme j'ai dit, et c'est logique, plus tu sèmes, plus ton capital et multiplier pour former quelque chose de puissant. Si le capital est petit, ça ne produit rien du tout. Lisons 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens 9, 6.
Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment.
Amen. C'est écrit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est clair. Et en sachant que nous avons affaire à qui? Au Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. En sachant qu'il a fait encore quoi? Qu'il a laissé son Fils crucifié à la croix, effacer nos péchés. Donc, de sorte qu'il n'y a pas de raison pour dire qu'il ne va pas agir. Il va agir parce que même si nos péchés sans un blocage, nous pouvons demander pardon à cause du sang de Jésus, nos péchés sont effacés. Et donc Dieu va agir. Il n'y a aucun blocage pour son action. Mais si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Le Seigneur veut que toute une vie soit donnée. Maintenant, puisque naturellement nous ne voulons pas le faire, parce que l'homme a conservé sa vie. C'est naturel. On appelle ça instinct de survie dans le monde. Naturellement, on veut contrôler, gérer la situation. Il paraît même que les dictateurs n'aiment pas l'anesthésie générale. Parce que c'est l'instant où Il y a quelqu'un qui a le contrôle sur eux. Il paraît que Kadhafi, quand on l'opérait, c'était anesthésie locale. Pas question d'anesthésie générale. Il ne voulait pas perdre, même à ce niveau-là, le contrôle. Anesthésie locale. Il regarde ce que font les médecins. Mais Dieu nous dit qu'il faut l'anesthésie générale pour que moi j'agisse pleinement. Il faut qu'il y ait anesthésie générale chez toi. Et l'homme a l'instinct de survie. Puisqu'on est comme ça, c'est lui-même qui va s'occuper de créer les situations de notre mort, de notre brisement, de notre échec. Il va s'en occuper. Ne vous en faites pas. L'épreuve, ce n'est pas seulement pour l'autre. Ça viendra chez toi. Si tu es un vrai chrétien, ça viendra chez toi. Et si tu es appelé à être un vrai chrétien, ça viendra chez toi. L'épreuve. Il y aura un jour où tu auras à choisir. Ou c'est Dieu au travers de la mort, ou tu réunis Dieu. Il y aura des situations comme ça. Ou ça sera la colère contre Dieu. Parce que je suis en train de parler hein, des gens qui croient déjà. Hein, il y a comme une colère. Il y a un choix qui t'est offert. Peux-tu continuer encore à un tel Dieu? C'est arrivé à qui? À Job. Ses richesses sont consumées. Tout est détruit. Ses enfants même tués. On vient dire à Job, tu as tout perdu, même tes enfants. Et sa femme dit, ah, si Dieu existait, de telles choses ne pouvaient pas nous arriver. Il n'existe pas. Maudit Dieu et meurt. Voilà, on se retrouve dans cette situation. Ou la vie qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie, nous pousse à faire un acte ultime. Le problème, c'est que cet acte-là ne va même pas résoudre notre problème. Parce que quand tu maudis Dieu, ça résout quel problème? Quand tu critiques Dieu, ça résout quel problème? Aucun problème. Sauf que ça te donne la sensation d'avoir un contrôle sur toi. C'est tout. Ça te donne la satisfaction de pouvoir gérer encore. Parce que l'autre voix te dit quoi? Ne gère pas. Laisse Dieu faire. L'autre voix te propose la mort. Mais la voix de l'orgueil te dit, maudit Dieu et meurt. Tu peux encore faire quelque chose. L'autre voix te dit, la belle voix te dit, la situation est finie, c'est mort. Laisse Dieu ressusciter l'affaire. Mais la mauvaise voix te dit, Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, il ne peut pas permettre de telles choses. Après tout ce que tu as fait pour lui, toi tu crois, regarde, et c'est là qu'on commence à regarder les païens. Regarde ceux qui ne croient pas. Comment ils sont forts, ils sont beaux, ils ont tout. Et toi, voilà ce que Dieu fait chez toi. Hein? Même si tu as fait des péchés, es-tu le seul à pécher? Les autres ne pêchent pas. Maudit Dieu et meurt. Ça te donne la sensation d'être encore énergique. Ah, je peux encore maudire. Mais la voix de la simplicité te dit, c'est mort. Tu as perdu. Il ne te reste que Dieu. Voilà la voix de la simplicité. La voix de la simplicité te dit, il ne te reste que Dieu. Il n'y a que lui maintenant. Tu as perdu. Tu n'es plus fort. Tu n'es plus fort. Puisque tu n'as plus ce qui faisait ta force. Ton corps ne répond plus. Tu as échoué alors que tu étais considéré comme le plus intelligent de ta classe. Licencié. La voix de la sagesse te dit, eh bien, il ne te reste plus que Dieu. Mais la voix de l'orgueil commence à dire, mais les gens vont parler. Les gens vont dire, mais toi tu crois, non? Les gens vont parler. Où est ton intelligence? Où est ta force? Toi qui courais 100 mètres en 8 secondes, en 10 secondes, voilà, tu te retrouves sur un fauteuil roulant. Les gens vont parler. Comment Dieu a pu permettre qu'il arrive ceci à ton fils, à ta fille? Et tu te retrouves devant un choix. Ou tu laisses Dieu faire à travers ta mort, ou tu maudis Dieu. Et tu meurs quand même, parce que le conseil de la femme, c'était maudit Dieu et meurs. Et le conseil de l'Esprit Saint, de la sagesse, c'est attends-toi à Dieu. Il est au contrôle. Il va ressusciter les choses avec puissance et gloire. Mais en ce moment-là, toute ton intelligence est en travail. Tous tes raisonnements sont en travail. Tout ça te dit, mais ça fait 10 ans que ça ne change pas. Vous vous imaginez le cas de Jean Schwab. 3 ans. Il était un vrai chrétien avant que tout cela n'arrive. Vous imaginez tout ce que les mauvais esprits pouvaient lui dire. Ça fait 3 ans. Alité, qu'est-ce que tu as fait de mal? Plus qu'un autre. Qu'est-ce que peut faire une prière de plus? À quoi ça sert? Et quand les gens te visitent, ils citent des versets. Tu dis, ben, je les ai entendus, mais ça n'empêche pas que je suis dans cette situation-là. Est-ce qu'ils sont vrais? Mais la voix de la sagesse, de la simplicité te dit, accepte la mort que Dieu t'inflige. Accepte, parce qu'il y a la résurrection. La mort, c'est un état où tu n'as plus contrôle. Tu ne peux plus agir sur quelque chose. Le secours d'un humain n'est plus utile, n'est plus possible. Mais tu as encore l'orgueil pour injurier Dieu, injurier les autres, critiquer le monde. Tu as encore ça. C'est la force qui te reste. Qu'est-ce que tu fais? Il faut choisir de faire confiance en Dieu. Et ça arrivera à nous tous, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, frère, moi je pensais, je me préparais aux épreuves. Je me disais, à cause de la vérité que je prêche, un jour, il y aura des complots contre moi dans la rue. On va me lancer des pierres. Un jour, on va m'emprisonner parce que j'aurais dit que l'homosexualité est un péché. Je m'attendais à la persécution en prison. Je m'attendais à vivre sans salaire, sans argent. Mais vous savez, tout ce qu'on a déjà préparé dans notre tête, ce n'est plus la mort puisqu'on a préparé. J'ai préparé dans ma tête la persécution en prison. J'ai préparé dans ma tête, le bannissement. On t'écarte du monde. On t'isole dans une île. Puisque tu les as préparés, Dieu ne viendra pas par là. Lorsque j'ai subi la maladie qu'on m'a trouvée, dernièrement, une douleur qu'on ne peut pas définir. Tu lis la Bible, ça ne te fait plus rien du tout. Vous savez, on dit souvent que ah, mais Dieu soutient les gens qui souffrent. Ça dépend. Quand il a décidé de te soutenir, tu es heureux, tu souffres, tu es heureux. Mais quand il ne te soutient pas alors, tu pries, tu as comme l'impression que le ciel est fermé. Le verset biblique, tu te rappelles ça, c'est comme si tu regardais de la pierre, aucun effet sur ta foi. Une seule voix a de la force. donne-toi la mort. C'est la seule délivrance. C'est ça, bien-aimé. Dieu viendra par les moyens que nous n'attendons pas. Parce que c'est lui qui sait où se trouve notre force. Je suis issu d'une famille de gens qui sont forts physiquement. Et Dieu savait peut-être que c'était là la force de cet homme. Il faut l'atteindre là pour qu'il meure. Des gens, je suis issu d'une famille où les gens ne tombent pas facilement malades. C'est cela, bien-aimé. Il y a des gens qui ont fait 50 ans sans tomber malade. Mais un jour, tu vas être coincé parce que Dieu veut obtenir quelque chose de glorieux chez toi. La seule force que tu sembles avoir, c'est celle de maudire Dieu. Et c'est là qu'on comprend Jésus-Christ à Gethsémané. Vous savez, il y a un verset dans la Bible où l'apôtre Paul dit « Je cherche à achever les souffrances de Christ en moi. » Ça veut dire que tout chrétien connaîtra d'une certaine manière les souffrances de Christ. Chacun à son tour. Mais pas forcément le même problème. Parce que ce qui peut être un problème pour moi, ça peut être pas un problème pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, c'est le jour où on lui annonce le licenciement. Qui est sa destruction, ça. Il perd tout. Mais moi, j'avais déjà dépassé le problème de licenciement. Ça ne me disait rien qu'on me licencie, qu'on me donne du travail ou pas. Dieu devait trouver qu'est-ce qui allait vraiment le massacrer afin qu'on s'abandonne totalement à Dieu. Au plus haut niveau, Dieu veut une semence totale. Il faut qu'il détruise la force de l'homme parce qu'il veut manifester sa gloire. J'ai lutté. J'ai ressassé les versets bibliques. J'ai résisté. Par des prières. Mais je ne trouvais toujours pas la force. Le ciel était fermé. Ma foi était déstabilisée. J'ai dit, mais comment j'ai pu prêcher tant de prédications avec puissance et force sur la foi et maintenant je ne vois rien du tout. C'est normal. Ça va arriver. Jésus a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu nous abandonne vraiment parce qu'il veut qu'on meure. Jusqu'à ce qu'on dise que ta volonté soit faite. Parce que moi, j'ai lutté pour que la douleur cesse. Je priais pour que la douleur cesse. Je priais pour que je guérisse. Et un matin, je me suis réveillé. J'ai dit, je me suis surpris. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas l'homme. Le Saint-Esprit nous aide quand on est un vrai enfant de Dieu. À un moment donné, il va nous aider à faire la bonne prière. J'ai dit, Seigneur, dispose de moi comme tu veux. Quand j'ai dit cette phrase, le nuage qui me bloquait de Dieu est parti. J'avais toujours la douleur, mais j'étais bien maintenant. L'épreuve était finie. Je ne suis pas guéri scientifiquement, mais le travail de Dieu, pour ce moment-là, était fini. Quand j'ai dit, dispose de moi comme tu veux. J'ai senti le nuage. J'ai senti que quelque chose était dégagé du ciel. C'était libre. Et vous savez que quand c'est libre, la puissance de Dieu est plus forte que n'importe quoi. Quelle que soit la maladie, si Dieu est avec toi, tu es plus fort. J'étais détruit parce que Dieu n'était plus là. Mais quand il vient, c'est fini. J'ai dit, dispose de moi comme tu veux. J'accepte maintenant de tout perdre. À partir de ce moment-là, le diable pouvait venir avec des pensées du genre, ah, mais les gens vont te voir avec le bras en écharpe. Ils vont dire, mais voilà, le pasteur lui-même est malade. Les gens qui me critiquent à cause de la vérité dans toute la ville, ils vont s'en donner à cœur joie. Vous savez, tout ça ne me disait rien du tout, puisque j'avais la paix avec Dieu. Même au boulot, on en est venu encore parler de Dieu. Et il y a une formatrice, une collègue qui me dit, mais il n'a qu'à te guérir. J'ai dit oui, il me guérira, mais dans la simplicité. Mais avant, on avait un certain orgueil. Oui, il me guérira. Mais là, j'ai dit, oui, il me guérira. Dieu nous apprend que la force vient de lui. Ce n'est pas notre christianisme qui est fort, mais c'est Dieu. La vraie foi nous amènera un jour à la mort. Nous allons lire Daniel 3, 14 à 30. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même t'amène à la mort. C'est son œuvre.
Lisons la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 3, verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons et de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi !» Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Amen. Mais bien-aimés, est-ce que ces gens-là ont évangélisé Nebuchadnezzar? Est-ce qu'ils ont parlé de Dieu dans les provinces? Non, mais ils ont livré leur vie. Beaucoup de gens font des activités pour Dieu, mais leur vie n'est pas livrée à Dieu. Or, pour obtenir le meilleur résultat, Dieu veut nos vies. C'est nos vies livrées qui vont produire le meilleur résultat. Daniel et les autres n'avaient pas fait un travail d'aller annoncer qu'il faut obéir à Dieu, il faut obéir à Dieu. Mais ils ont livré leur vie à Dieu. C'est ce qui a attiré le respect de Nebuchadnezzar. Il le dit au verset 28, ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Ils ont livré leur vie pour l'honneur de Dieu. Si tu ne le fais pas de toi-même, Dieu t'y amènera parce qu'il est bon. Il créera des épreuves pour t'amener à te livrer. Pour que ça soit clair. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui commande ta vie. Et tu es prêt à mourir. Seule la mort témoigne que quelqu'un s'est converti vraiment. Donc, Dieu va t'amener au point où tu choisis de ne plus exister afin que son nom soit glorifié. Tu choisis d'être critiqué, d'être mis de côté, d'être rejeté comme papa, comme maman, comme enfant. Tu es rejeté, exclu de la famille, afin que ton nom, le nom de Dieu seul soit glorifié. C'est là, ça arrivera à chacun d'entre nous. Parce que c'est de cette vie-là dont Dieu a besoin pour produire la plus grande gloire qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Les activités, c'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu attend le plus. Ce que Dieu attend, c'est la vie. Parce qu'avec la vie, il peut faire des grandes choses. C'est la vie qui témoigne de la vraie confiance. C'est parce que tu peux donner ta vie que tu fais vraiment confiance à la personne. Voilà. C'est ça, la vraie foi. Ça doit nous amener à être prêts à en mourir. Et on a vu le résultat. Quel résultat glorieux! Je prêche ceci pourquoi? Parce que je suis conscient de la grandeur de Dieu. Mais je suis aussi conscient du fait que la gloire de Dieu est peu manifeste à notre époque. Et je pense que c'est parce qu'il y a peu de chrétiens qui ont livré leur vie à Dieu. On aime Dieu, on a sympathisé avec lui, mais on n'a pas livré sa vie. C'est deux choses différentes. Dieu nous amènera à livrer la vie. Maintenant, pour beaucoup, ça peut être dû aussi au fait que, hein, vous savez, l'exemple, l'illustration qu'on avait donnée au début, on te dit, l'argent sera multiplié par deux à la fin du mois. Pour beaucoup, c'est parce que ils n'ont pas vu beaucoup d'autres personnes prendre ces risques-là. Eux aussi, ils ne prennent pas le risque. Ils donnent juste 100, comme ça, ils gardent les 1400, ils vont... voilà. Mais la Bible est remplie des exemples des gens qui ont donné leur vie. Les Paul, les Daniel, on vient de lire un exemple. C'est des gens qui l'ont fait et on voit les résultats que ça a apporté. Et on a l'exemple le meilleur, c'est celui de Jésus. Il donne sa vie et il obtient notre salut. Aujourd'hui, la plus grande, dans des pays qu'on ne pourrait jamais croire chrétiens, mais des pays comme la Chine, c'est là où il y a le plus de chrétiens aujourd'hui, de plus en plus. De pays comme la Corée, oui, parce que Jésus a donné sa vie à la croix, il a crié « tout est accompli ». Il n'a pas crié « tout est accompli » quand il faisait les miracles. Il a crié « tout est accompli » quand il s'est donné. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour que Dieu déverse sa grâce et sa gloire dans l'humanité. C'est pourquoi il a dit « désormais demandez à mon nom ». Mais croire en Jésus, il ne s'agit pas de prendre un ticket que Jésus nous offre. Il s'agit de prendre sa vie, d'être comme lui. De marcher selon le même système. Je m'offre et Dieu manifeste sa gloire. C'est ça la vraie foi. Prêt à en mourir. Et bien aimé, nous ne perdons pas. Parce qu'on a lu l'exemple de Daniel et ses amis, ils n'ont pas perdu. C'est plutôt la condition pour expérimenter la plus grande gloire. C'est-à-dire, on a le choix de rester juste avec le ticket. Hein, l'exemple du monsieur qui donne que 100. Comme ça, il garde les 1400, il peut bien gérer. Voilà. Et rester comme ça, médiocre, avec le risque d'être découragé par l'apparente puissance des forces des ténèbres. Ou alors, on dit non, Dieu est infini dans sa gloire, il est tout puissant, je refuse ça. Je refuse que, plutôt, moi, je ne manifeste pas sa gloire, que les chrétiens ne manifestent pas sa gloire. Je refuse ça. Je veux qu'il glorifie son nom dans ma vie. Et au milieu des chrétiens, alors je lui donne ma vie. Voilà. On a parlé de l'œuvre de Dieu. Quand nous-mêmes, on hésite, on lutte, ou bien quand nous-mêmes, on s'est préparé d'une certaine manière, Dieu lui a une surprise. Vous savez, malgré le fait que le Seigneur était au courant, il était au courant de sa mort, mais quand c'est arrivé à Gethsémané, il a transpiré de gouttes de sueur, de gouttes de sang. Parce que ce qu'on peut préparer, ce n'est pas forcément ce qui va arriver, afin que notre mort soit vraiment réelle, parce qu'on a été surpris, on est dépassé, et que notre seule aide, c'est Dieu. Et en ce moment-là, un ange est venu le soutenir. Notre seule aide. Il faut que ça en arrive au point que notre seule aide ne soit que Dieu. Et qu'on dise, oui, je m'abandonne. Oui, qu'on me marche dessus. Qu'on parle de moi comme de quelqu'un qui a échoué. Qu'on parle de moi comme de quelqu'un qui est pauvre. Qu'on parle de moi. C'est pas grave. Moi, je m'attends au Seigneur. C'est ça la mort. Nous passons maintenant à autre chose. Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est que de nous-mêmes, on prenne conscience qu'il faut que Dieu se manifeste dans sa gloire et que cela passe par le fait de livrer notre vie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les grands discours. Les grands discours, c'est pour le cinéma, pour le théâtre. La vraie vie chrétienne, c'est une vie qu'on donne, ce n'est pas des grands discours. On va dire, Seigneur, sauve les gens qui ne croient pas en toi, mais oui, mais ils ont besoin que tu donnes ta vie. Joan Shelter, une Américaine de 20 ans environ, elle est partie chez les Balangao aux Philippines. Les tribus qui coupaient les têtes, des coupeurs de têtes. Elle a donné sa vie pour traduire la Bible en Balangao. Quand elle a fini la traduction, 20 ans étaient déjà passés. Il ne faut pas parler. Non, il faut donner sa vie. Les beaux discours, ça n'a pas d'effet. C'est une vie qui est semée qui a de l'effet. C'est comme ça, bien-aimé. Maintenant, comment offrir sa vie? Il faut que nos prières dépassent notre raisonnement. On commence par la prière. Il faut que ta prière dépasse ton raisonnement. Au fait, on a dit mourir pour sa foi. Donc tout dépend de ça, ta foi. Ta foi, c'est quoi? C'est dans le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Eh bien, c'est ça qui déterminera ton comportement. Tu diras, mais c'est pas normal que celui qui a fait des milliards de galaxies, ben, qu'on ne voit pas sa gloire. Ah non? C'est ça ta foi, tu dis non? Et tes prières vont être différentes. Tes prières vont être différentes aussi en fonction du fait que Jésus-Christ est mort à la croix. Si le péché est un obstacle, il n'est plus un obstacle parce que le sang de Jésus efface tout cela. Tes prières dépasseront tes raisonnements. Tes prières vont dépasser tes limites. Tes prières vont dépasser ton confort. Où tu pries pour des choses limitées. Tu pries pour les affaires des humains limitées. Tu pries pour toi-même. Maintenant, tu vas commencer à prier afin que la gloire de Dieu se manifeste dans l'humanité. Tu vas commencer à prier pour des tribus. Tu vas commencer à prier pour les Johnny Hallyday, les musiciens de ce genre-là. Tu vas commencer à prier pour la personne qui t'a dit « Jésus, c'est un faux !» Et tu vas prier pour cette personne-là. Et tu vas lui dire « J'ai prié pour toi. » Il y a un médecin juif aux États-Unis qui disait « Moi, Jésus, c'est un faux. Je ne croirai jamais en lui. C'est un faux. » Et un jour, il a eu à soigner un enfant. Quand je parle de donner sa vie, bien-aimé, on ne cherche pas les bacs plus 40. Qui que tu sois, quand tu donnes ta vie, c'est plus fort que les bacs plus 60. Un enfant qui venait de la guerre, qui était un tambour hein, dans la guerre, mais il a reçu quand même un projectile. Il fallait qu'il soit amputé. Et on appelle, c'est le médecin là, le fameux têtu, qui devait amputer l'enfant. L'enfant lui dit, je ne veux pas de chloroforme. C'est un anesthésiant, le chloroforme. Jésus sera avec moi. Le médecin dit, ce petit-là est fou. Il lui explique la douleur. Vous savez, amputer la jambe, hein, vous comprenez, c'est, on va scier ton os. Le petit dit, Jésus sera avec moi. Parce que quand on prêche comme ça, il y a des gens ici qui ont peut-être 14 ans, ils se disent, ah, ben ça c'est vraiment la prédication pour les 25 ans. Non! C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Ce petit-là n'avait peut-être même pas 15 ans. Il dit, Jésus va m'épargner la douleur. Le médecin dit, c'est pas possible. Mais tu ne veux pas quand même que je te donne du whisky? Ça calme un peu aussi. Le petit a dit, non. J'ai déjà dit à ma mère que je ne prendrai pas de boisson fermentée pour la gloire de Dieu, un consacré de l'Éternel. Et le médecin opère, scie le petit. Et qu'est-ce que le petit? On lui a mis un coussin dans la bouche. Il ne criait pas, il disait, adorable Jésus. Le médecin était déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a dit, va pas fléchir. Jésus est un faux. Et puis, on s'attendait à ce qu'il meure de l'opération, il n'est pas mort. Et cinquième jour, il fait appeler le médecin. On dit, mais monsieur, il y a le garçon qui t'appelle. Mais pourquoi? Mais il veut te parler de quelque chose avant de mourir. Et le médecin est arrivé. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, avant que je te parle, donne-moi la main. Le médecin lui donne la main. Le petit lui dit, pendant que tu m'opérais, je priais pour toi, afin que tu croies en Jésus. Le médecin dit, moi, je ne peux pas croire en Jésus. Il a dit, oui, ce n'est pas grave. Mais moi, je priais pour que tu comprennes combien il est bon, combien tu as besoin de lui. Et quand cette affaire, quand tu lui as parlé, Il a dit, je voudrais que tu m'appelles maintenant un homme de Dieu à qui je vais laisser mes dernières recommandations. Quand l'homme de Dieu est venu, il a donné sa Bible, il a dit, ramène ça à ma mère, dis-lui que son petit n'a pas cessé de lire sa Bible malgré la douleur. Et le médecin, il est rentré chez lui, il ne dormait plus jusqu'à ce qu'un jour, Jésus s'est révélé à lui. Il s'est converti. Lui aussi a tout perdu. Lui, il a tout perdu, puisqu'en tant que juif, sa femme est partie. Ses enfants sont partis chez les grands-parents. Il a été rejeté de la communauté. Il a perdu femme et enfants. Les grands-parents ont dit à ses enfants, « Nous sommes très riches. Si vous régniez votre papa, on vous donnera en héritage nos richesses. » Les enfants ont régné leur papa. La femme est partie. Lui, il a persévéré avec Jésus. Dieu s'est révélé à sa femme. Sa femme s'est convertie. Et un jour, qu'il était dans une salle où des chrétiens donnaient le témoignage de la grandeur de Dieu, et il y a une dame qui a parlé de son fils, qui avait parlé à un médecin juif, orgueilleux même, son fils quand même lui avait parlé de Dieu pendant qu'il était sur son lit de mort. Et le médecin a dit, mais c'est moi, aujourd'hui je suis chrétien. Bien-aimé, cet homme, Dieu s'est servi de lui pour sauver encore bien d'autres, mais tout vient de l'offrande de cet enfant-là. Bien-aimés, nous allons gagner quoi sur terre? Nous allons gagner quoi? Dites-moi, même si aujourd'hui tu étais milliardaire, 50 ans, ça passe vite. Notre vie est brève. Vaut mieux l'utiliser comme une balle, comme un missile entre les mains de Dieu pour faire de grandes choses qui sont éternelles. Plutôt que juste être riche sur terre et ça reste ici. Avoir le succès sur terre, ça reste ici. Bien-aimé, ça passe vite. Ça passe très vite. Les années. Quand on pense à nos 14 ans, 15 ans, c'est pas loin. On se souvient presque de tous les événements de cet âge-là. Mais c'est passé très vite. Et il y a encore un autre enfant qu'on appelle David. Puisque le temps est passé, on ne va pas lire cette histoire, ça se trouve dans 1 Samuel 17. David a vu que Goliath menaçait son peuple. Il s'est dit, je ne peux pas laisser faire comme ça. C'est notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. Alors je vais affronter Goliath. Nulle part dans la Bible, on dit que David, le Saint-Esprit, quelqu'un lui avait dit, va affronter Goliath. Non, il a pris ses responsabilités par rapport à sa foi. C'est pourquoi j'ai dit mourir par rapport à sa foi. Je ne dis pas pour mourir par rapport à la foi, comme à l'écart. Non, c'est ta foi. C'est ta foi. Mourir par rapport à sa foi, ça dépend de la foi que tu as. Donc David, la foi qu'il avait de Dieu, ne l'autorisez pas à accepter que Goliath se moque de son peuple et de l'Éternel. C'est la foi que chacun a qui va déterminer les choses. Si tu as la foi du ticket, la foi de l'hôpital où donc on est là sur terre comme une banque où Dieu va seulement te donner des choses, ça, cette foi-là ne t'amènera pas à la mort. Mais si tu as la foi que Jésus est le Fils de Dieu, il est venu sauver l'humanité, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que son Père, c'est le Dieu Tout-Puissant, et que tu es devenu son fils, co-héritier des mêmes choses que lui. C'est ce Jésus-là qui a dit dans Jean 14, 12 à 14, ceux qui viennent après lui feront de plus grandes choses. Quand tu as cette foi-là, tu n'acceptes pas de voir ce qu'on voit, la désolation. Ma maladie m'a permis d'aller dans les hôpitaux, dans l'hôpital, plusieurs fois. Quand je vois les listes d'attente des médecins, dernièrement j'étais chez l'ophtalmologue, les gens étaient jusque dans le couloir, j'ai dit mais non Seigneur, les humains souffrent, Il faut que la puissance de la guérison se manifeste. Avec Dieu, ça sera le raccourci. On te pose les mains, tu es guéri. Pas de liste d'attente. Rendez-vous dans 8 mois. Non, bien-aimé. Ça dépend de ta foi. David, selon sa foi, il a dit non. Je vais l'affronter. Dieu sera avec moi. Je préfère mourir avec la foi plutôt que vivre dans la honte. C'est ce que David s'est dit. Si je n'affronte pas cet homme, je rentre chez moi, je vais tout le temps souffrir d'avoir laissé faire cet homme. Et d'ailleurs, pourquoi je crois? Il faut se poser les questions. La mort nous fait poser la question suivante. Je crois pourquoi? Je crois en quoi et pourquoi? Pourquoi je crois? Si tu crois juste pour avoir les choses que tout le monde a d'une autre manière, il y a un problème. Je ne crois pas pour recevoir des rendez-vous dans les hôpitaux. Je crois pour la guérison directe de Dieu. Beaucoup se sont contentés de ce que le monde pouvait leur faire en se disant « Dieu m'a béni ». Non ! Dieu a une façon de bénir qui vient de lui-même directement et qui n'est pas comparable à celle du monde. Et il faut que cette différence-là soit claire. Mourir pour sa foi. Donc il faut en arriver à dire non, je préfère mourir dans la foi. Je vais affronter Goliath. Au moins, je vis ma foi dans le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre et qui a créé Goliath. Donc forcément, il est au-dessus de lui. Oh, ce Dieu-là, c'est notre Dieu, le Dieu d'Israël. Il dit, ah non, cet homme est en train de l'injurier. Moi, je l'affronte. Tout dépend de qu'est-ce que tu crois et pourquoi tu crois. David n'a pas accepté ça. Et il a affronté Goliath. Goliath a été vaincu. Alors, bien-aimé, nous devons maintenant choisir quelle foi nous voulons mener. La foi bien calculée, bien dosée, les risques bien calculés, les risques payés par l'assurance. Payés par l'assurance. Les risques, ça s'appelle quoi, la maïf? Non, bien-aimé. Dieu veut qu'on croit au Dieu Tout-Puissant. Qu'on croit que la vie n'est qu'une parenthèse. Il a besoin de ça pour produire une vie meilleure au ciel qui durera éternellement. Notre vie n'est qu'une parenthèse. Que cette parenthèse serve pleinement à Dieu. N'économisons rien parce que c'est la vie totale dont il a besoin. C'est ça qui va faire que quand on va t'annoncer les mauvaises nouvelles, tu diras, je crois en Dieu, dans le Dieu Tout-Puissant, il va agir. Je n'ai pas peur des mauvaises nouvelles. Mais bien-aimé, Dieu veut qu'on fasse comme David. Il ne veut pas nous obliger à entrer dans des épreuves, quoique il va faire certaines choses par lui-même parce que nous, on ne peut pas tout saisir. Mais il veut aussi qu'on ait un positionnement de foi qui nous fasse dire, je préfère mourir dans la foi que vivre dans la médiocrité comme tous les humains. Il faut que ma foi dans le Dieu Tout-Puissant fasse une différence entre et avec la vie d'un homme normal. Fait qu'il y ait la différence entre ceux qui prient, entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Et la différence, c'est la puissance divine qui doit se manifester à travers notre confiance. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen.